Bonjour à vous qui nous rejoignez et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter. Nous sommes en direct jusqu'à 14h avec au sommaire de l'émission ce dimanche le retour sur l'actualité de la semaine avec le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Et puis dans une quinzaine de minutes, après le sommet de Davos, un nouvel ordre ou un nouveau désordre mondial serait-il en train d'émerger? Nous ouvrirons le débat avec notre invité, l'économiste et essayiste Nicolas Bavrez. Il viendra nous rejoindre tout à l'heure.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Avec Natacha Polony et Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Et on va directement rentrer dans le vif du sujet. Parmi les faits qui ont retenu votre attention cette semaine, Natacha, ça s'est passé dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, dans l'Oise ou dans le Rhône. On en a vu les images, elles ont fait le tour des JT et du web.
Les gens rentrant qui voulaient rentrer avant tout le monde, devant le rayon, ils se poussaient, hein, tout qui volait, les palettes elles volaient, tout qui volait. Une grosse panique. Hein. Et une femme elle a été griffée, des fous. Moi ça fait un moment que je travaille ici, plus de 20 ans, jamais vu ça, hein, que pour des pots de Nutella.
On s'est parfois battu dans les hypermarchés pour des pots de Nutella, vendus 1,40€ au lieu de 4,70€. Et pour vous, Natacha, c'est très très loin d'être anecdotique.
Oui, c'est loin d'être anecdotique pour plusieurs raisons. D'abord parce que, en effet, voir des gens en venir aux mains, se battre de cette façon-là, ces images sont extrêmement violentes et profondément troublante, désolante. Mais surtout, ce qui doit retenir notre attention, me semble-t-il, c'est l'analyse qu'on peut faire par la suite. Il y a eu évidemment des gens qui ont exprimé leur indignation et d'autres qui ont répondu, mais ces gens-là ne se battaient pas pour des pots de Nutella, ils se battaient pour gagner quelques euros parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils ont des difficultés financières. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais pour autant, certains ont dit, vous voyez, trouver ça choquant, c'est du mépris de classe, on méprise ces gens, etc. Et je pense qu'il faut réfléchir en fait au système qui aboutit à ce genre d'image. Qu'est-ce qui fait que des gens vont, bien sûr, n'ont pas beaucoup d'argent, mais vont le dépenser pour acheter ce truc-là,
parce
ce
que c'est
produit-là.
Bon, la question est toute bête, hein.
Oui, mais bon, ça, bon peut recouvrir différentes notions. C'est-à-dire bon dans le sens où ça crée une addiction, dans le sens où c'est extrêmement gras, extrêmement sucré. On sait aujourd'hui qu'il y a des épidémies de diabète, des épidémies de maladies cardiovasculaires, d'obésité, et ce produit est le symbole de tout ça. Faut-il considérer que on doit laisser des gens se battre pour ce produit parce qu'ils pensent que c'est indispensable et que c'est indispensable à leurs enfants? C'est toute la question de la liberté. La liberté, ça nécessite d'abord de connaître, de savoir pour pouvoir exercer un choix qui soit réellement raisonné, qui soit réellement qui ne dépende pas de par exemple d'une publicité qui vous a collé dans le crâne que tout ça était indispensable. Sinon, ce n'est pas de la liberté, c'est de l'aliénation. Ça nécessite de ne pas être en proie à des pulsions et des pulsions addictives. Or, on sait de plus en plus que le sucre provoque des addictions. Donc, où est la liberté là-dedans? Et en particulier, quand ça touche les plus pauvres, quand ça touche ceux qui ne sont pas suffisamment informés et ceux qui dépendent de la grande distribution pour ça, alors il faut se poser la question de la responsabilité que nous avons de mettre en place ce système qui aliène les individus.
Raphaël Glucksmann.
Je suis assez d'accord. D'ailleurs, c'est pas nouveau. Hein. Marx analysait déjà le fétichisme de la marchandise. Et Baudrillard, si on veut faire plus récent, dans la société de consommation, analysait comment on était passé d'une logique du besoin, parce que là, c'était pas des émeutes du pain, c'est pas quelque chose de vital de manger du Nutella, ou de la Nutella, ça dépend. Dans la société de consommation, il analysait comment on était passé de cette logique du besoin à une logique du désir, de la marque, du désir suscité par un environnement de signes.
Il va falloir trouver les meilleurs arguments, Raphaël Glucksmann, parce qu'en régie ici à la maison de la radio, tout le monde ne comprend pas ce que vous dites.
Ah non, mais ce que je veux dire, c'est que en réalité,
on peut avoir besoin. Besoin de pâte
Nutella
à tartiner.
Oui. On peut avoir besoin de pâte à tartiner, mais il y a un fétichisme de la marque qui est créé par la publicité. Après, c'est vrai que moi, j'ai été choqué par les ricanements sur Twitter. C'est-à-dire que j'ai pas relayé les vidéos parce que je croyais qu'il y avait une forme de mépris de classe qui s'exerçait quand on se disait, ah, regardez, ce sont des animaux et tout ça. Il y a un fait qui est que les gens, les lieux où on a vu ces images désolantes, eh bien, c'est des lieux marginalisés, des lieux de déclassement, des lieux de cette France qui ne gagne pas, qui n'est pas encore bac. Mmh. Et c'est une France qu'on veut pas voir, dont on se moque un peu trop facilement quand on est un bobo parisien comme moi. Donc, il y a eu du mépris de classe. Et juste sur la logique du Nutella, c'est vrai qu'il y a ce fétichisme de la marque, mais c'est vrai aussi que quand Lidl, il y a 2 ans, avait fait des promos sur l'huile de tournesol, là, qui devient carrément quelque chose dont on a besoin, eh bien, il y avait eu les mêmes scènes. Donc, il y a quand même une logique sociale derrière
bien
ça.
Bien entendu. Et je pense que la logique sociale doit être réfléchie. Il faut absolument faire en sorte qu'il n'y ait pas moins de gens qui sont dans une telle détresse qu'ils sont à 2 euros près le mois. Il faut prendre conscience de ça. Oui, il y a des gens qui sont à 2 euros près, à 5 euros près par mois. Simplement, ensuite, il faut se demander pourquoi ça se reporte sur des produits comme celui-là et, par exemple, pourquoi nous ne
mais
sommes pas capables...
Mais il ne faudrait plus en vendre.
Écoutez, c'est pas qu'il ne faudrait plus en vendre. C'est que, encore une fois, la liberté, elle nécessite un apprentissage. Et vous savez, dans son discours, dans ses vœux à l'agriculture, Emmanuel Macron a été très technique, il nous a parlé des filières, de l'organisation. Et puis, à la toute fin, il y a eu une toute petite phrase sur l'éducation au goût. Oui, ce serait bien quand même qu'on éduque au goût. Mais pardon, mais ça nécessite pas une phrase, ça nécessite 2 heures de discours.
Ouais, c'est...
Réfléchissons à la façon dont on va libérer les individus en leur recréant des véritables sensations.
Mais
c'est-à-dire pas l'addiction au gras et au sucre,
on a déjà
mais le
fait
plaisir
des
d'un morceau de pain avec du chocolat ou du beurre et du chocolat noir râpé.
On a déjà
ça coûte moins cher.
Du beurre et du
voilà.
chocolat noir
Ça coûte
noir
moins
râpé.
Cher, c'est un plaisir qui est beaucoup plus intense.
C'est moins
simplement,
bon.
Hein. C'est... Non, c'est pas moins bon. C'est pas moins bon, mais ça nécessite un apprentissage.
Je partage votre addiction pour la Nutella, parce que je tiens à préciser d'ailleurs qu'on dit la Nutella.
Pas du tout.
Tout le monde dit le Nutella, mais si, non, mais Ali Badou ne me lançait pas
vous
sur ce sujet.
Dans une planète isolée.
Mais c'est un produit italien, et donc on dit la Nutella, mais ça, c'est une erreur que tous les Français partagent, donc à la fin, ça devient une vérité. Mais plus sérieusement, on avait déjà fait des progrès sur ça, parce que le bio à l'école, c'est censé amener comme ça une diversification du goût. Donc il va falloir accélérer, et il faut absolument, effectivement, que l'éducation prennent en charge ce rapport à la marque et l'esprit critique.
Encore un mot, puisque ce sont des scènes de batailles rangées qu'on peut voir aussi au moment des soldes dans de très grandes enseignes de luxe. Ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est aux deux chaînons de la chaîne, les deux maillons de la chaîne,
c'est pour ça qu'on aurait bien tort de pratiquer un mépris de classe et qu'il faudrait s'interroger sur le processus qui, en effet, relève de, qui comment dire, le consumérisme sur lequel s'appuie toute l'organisation de notre société et qui a pour but de transformer les individus en êtres pulsionnels. Et ça touche toutes les couches de la société, c'est-à-dire débrancher la raison pour essayer d'agir sur la pulsion, pour faire en sorte que le besoin de consommer soit impérieux. Ça, c'est une aliénation monstrueuse.
Bien vu dans La République de la Malbouffe, c'est le titre d'un papier que vous signez dans Le Figaro cette semaine, Natacha.
Le grand face-à-face sur France Inter.
Raphaël Glucksmann, ce qui a retenu votre attention cette semaine, c'est une offensive menée par la Turquie contre des groupes combattants, des milices kurdes dans le nord de la Syrie.
Oui, ça a retenu mon attention et j'espère celle des auditeurs et des auditrices, parce que il s'agit là des groupes combattants qu'on célébrait tous au moment de leur résistance à Daesh, contre Daesh à Kobané notamment. Et on tout d'un coup, Erdogan les attaque et on assiste impuissant et silencieusement à cette offensive. Et pour moi, ce que ça illustre, c'est la débâcle totale de l'Occident, de l'Europe, des États-Unis, en Syrie et dans la région en général. C'est-à-dire qu'on a laissé ce pays se transformer en terrain de jeu pour des tyrans, que ce soit Erdogan, Poutine, Khamenei, et finalement, tous les gens qui auraient pu être nos alliés, les Kurdes d'un côté et de l'autre, les révolutionnaires syriens qui se battaient à la fois contre les djihadistes et contre Bachar el-Assad, eh bien, sont les victimes de notre impuissance, de notre pusillanimité et finalement de notre je m'en foutisme. Et c'est très grave.
Je m'en foutisme.
Oui, c'est très grave. On va finir par le payer. Vous savez, là, on a quoi ? On a un allié de l'OTAN, donc la Turquie, qui mène une offensive contre des gens qui sont entraînés, équipés par la France et par les États-Unis pour résister à Daesh, pour combattre Daesh. Ces gens-là qui ont repris Raqqa. Et donc, on assiste à cela, et finalement, on ne fait rien, on ne dit rien, et je pense que c'est vraiment quelque chose dont on paiera un prix extrêmement élevé plus tard. C'est-à-dire qu'on n'aura plus aucun allié dans cette région, si on continue comme ça.
Natacha Polony.
Il me semble que c'est, j'allais dire, le mal vient de plus loin. C'est-à-dire qu'il vient notamment de la façon dont on a laissé la Turquie s'organiser petit à petit comme une dictature, en fermant les yeux totalement sur ce qui était en train de se passer. Mais ça remonte, par exemple, à la fin des années 90, au début des années 2000, quand on célébrait l'islamisme modéré de Erdogan comme une solution formidable, sans regarder ce que ça signifiait. C'est-à-dire qu'il y a un aveuglement sur ce qu'est la nature même de l'islamisme là-dedans. Et le fait d'avoir comme ça un abandon total de cette laïcité qui s'était mise en place en Turquie. Ensuite, c'est le rôle de l'OTAN,
mais
bien sûr.
Jamais...
On a laissé, pendant des décennies, l'OTAN devenir, une coquille vide qui servait juste les intérêts des États-Unis. On sait que c'est quelque chose qui n'a aucun intérêt, et là, on voit donc ce que signifie
quelque chose qui n'a aucun intérêt, c'est une phrase vite dite.
Raphaël Glucksmann.
C'est quelque chose qui n'a aucun intérêt, c'est une phrase vite dite, mais
non,
la question, si, c'est vite dit, la question, c'est celle-là, et c'est aussi la question syrienne, c'est-à-dire que jamais Erdogan n'aurait fait cela si jamais, l'Occident était crédible sur la Syrie. Et ce qui s'est passé, c'est que de ligne rouge en ligne rouge, on a laissé ce pays devenir un terrain de jeu pour dictateurs. Et aujourd'hui, si une solution est trouvée, qui ne sera pas une solution démocratique, qui ne sera pas une solution politique, ce sera une solution, en gros, négociée entre des tyrans qui se partagent des territoires. Et ça, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est un bond en arrière.
Mais que faudrait-il faire pour comprendre, Raphaël Glucksmann ?
Alors déjà, ce qu'il fallait faire, c'est ne pas laisser Bachar el-Assad contrôler la situation en Syrie, c'est ne pas laisser effectivement Erdogan asseoir son pouvoir comme cela, et c'est ensuite, quand on n'est pas capable de faire respecter les lignes rouges qu'on a soi-même énoncées, eh bien effectivement on laisse tous les autres décider. Et ce qui se passe, c'est l'abandon d'un peuple d'abord, et ensuite l'abandon d'une région. C'est-à-dire que, en gros, aujourd'hui, si vous êtes un tyran, c'est la fête tous les jours. C'est ça le message qui est depuis 6 ans et produit par l'impuissance, l'inexistence
Raphaël,
de l'Europe.
La question de savoir si c'est la fête quand on est un tyran, ça date pas d'il y a 6 ans et ça ne date pas de la Syrie.
Ça fait 6 ans que c'est.
Il y aurait une réflexion à mener sur la souveraineté des États. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus prôner le devoir d'ingérence permanent. Ça a donné l'Irak en 2003. Ça a donné la Libye. Et je pense que l'Occident
permanent.
A fait des stupidités totales. En revanche, l'Occident pourrait ne pas se mettre pieds et poings liés dans les mains d'un tyran comme Erdogan. Ce que nous avons fait à travers la question des réfugiés et qui fait qu'aujourd'hui, parce que Erdogan gère nos réfugiés ou les réfugiés qui pourraient venir en Europe, nous ne savons nous ne pouvons pas nous opposer à son action.
C'est-à-dire que quand il décide que la seule politique, c'est la guerre, à la manière de George W. Bush, c'est une catastrophe. Mais quand il décide de ne plus avoir de politique, de laisser les choses en l'état, eh bien c'est une catastrophe aussi. Et donc il va falloir qu'on détermine une politique cohérente. C'est ça, qui ne soit ni intervenir pour renverser les tyrans les uns après les autres, parce que ça ne marche pas, mais pas non plus laisser des tyrans disposer de leur peuple. Parce que la souveraineté dont vous parlez, c'est aussi utilisé par des tyrans pour disposer de leur peuple. Non pas des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais droit des tyrans à disposer de leur peuple.
Pour alimenter votre discussion, c'est ces groupes donc kurdes dans le nord de la Syrie, notamment l'IPG, qui appellent à l'aide le régime de Bachar el-Assad.
Oui, bien sûr, c'est le symbole de cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation très simple où les révolutionnaires qui faisaient face à Bachar el-Assad vont se demander l'aide de n'importe qui, et ceux qui font face à Erdogan vont demander l'aide de n'importe qui, parce que de toute façon, tout le monde sait une chose, c'est que l'Occident n'est pas crédible, que l'Europe n'est pas crédible, que les États-Unis ne sont pas crédibles.
Dans ces pays qui ont été, hélas, découpés par l'Occident de façon aberrante et qui payent les lignes tracées au début du XXe siècle, ce qui est compliqué, c'est que jusqu'à présent, Bachar el-Assad et son père avant lui avaient maintenu l'existence de minorités qui, du coup, évidemment, l'appellent à l'aide et s'appuient sur lui. Donc notre problème, c'est que, bien sûr, nous payons un siècle d'histoire occidentale absolument lamentable. Simplement, je pense que si on n'avait pas considéré qu'il fallait absolument classer Vladimir Poutine dans un axe du mal, le repousser dans ses retranchements, si on avait dès le départ essayé
Personne ne l'a mis dans un axe du mal.
Dans le cadre d'un rapport de force intelligent, on n'en serait peut-être pas là.
Mais bien sûr, mais il faut l'instaurer, ce rapport de force. Le problème, c'est que...
Dire qu'il est scandaleux de ne pas intervenir, dire qu'il est scandaleux de laisser les Kurdes, oui, ça nous révolte. Mais vous proposez quoi ? On intervient ?
Mais bien sûr qu'il faut faire pression sur Erdogan. Vous croyez que Erdogan, honnêtement, est quelqu'un qui se balade comme ça dans l'air ? Non, il y a tout à fait moyen de faire pression. Il fait partie de l'OTAN. On peut engager un rapport de force politique.
C'est ce que je vous disais, un rapport de force. Mais pour ça,
jamais je ne dirais...
Pour ça, il ne fallait pas laisser Angela Merkel lui déléguer la question des réfugiés.
Encore un mot, Raphaël Glucksmann, sur le sujet.
Oui, bien sûr que nous avons fait plein d'erreurs, mais l'erreur essentielle, c'est que nous n'avons pas de politique claire et assumée et cohérente. C'est un poulet sans tête, l'Occident, aujourd'hui, et donc tout se passe sans nous.
Mais encore faut-il savoir ce qu'est exactement l'Occident et si on peut considérer que l'Europe, par exemple, a les mêmes intérêts objectifs que les États-Unis.
Gens comme vous empêchent l'affirmation d'une souveraineté européenne. Parce que dans ce qu'il faudrait déléguer, créer une politique étrangère européenne,
avoir une armée européenne indépendante des États-Unis. Et pour ça, il faudrait que les nations soient capables de définir ce qui relève de l'intérêt de l'Union européenne ou de l'intérêt des peuples européens et des nations européennes et qui ne dépendent pas des États-Unis.
Nous avons
au sein de l'Union européenne des gens qui veulent dépendre des États-Unis.
Je veux bien parler, mais si vous parlez tout le temps, je vais avoir la parole. Donc, qui ne dépendent pas des États-Unis, évidemment, mais pour cela, il faut donner les moyens à l'Europe, politiquement et militairement, d'avoir sa souveraineté.
Laquelle et quel pays ?
Mais ces pays qui vont accepter de déléguer leur souveraineté. Des pays donc qui n'écouteront pas Natacha Polony.
Donc pas la Pologne, donc pas les États-Unis.
Mais bien sûr, vous racontez n'importe quoi sur les pays baltes, par exemple. Les pays baltes voudraient tout à fait en faire partie de cette Europe qui est beaucoup plus fédérale. Bien sûr que si, l'Estonie ne demande que ça. Donc
encore une fois, c'est dépend quelle Europe fédérale, Raphaël.
Bon, on n'arrivera pas à vous réconcilier sur le sujet.
Sur quel modèle ?
Raphaël Glucksmann.
Non, mais on va toujours expliquer qu'il faudrait que l'Europe ait une politique, mais on ne veut pas donner à l'Europe les moyens de cette politique. Donc, tant qu'il y aura que des nations qui se feront des petites guéguerres minables, évidemment que l'Europe sera sous domination américaine.
C'est la question de savoir qu'est-ce qui nous rassemble. Oui. Vous ne posez jamais la question.
On la posera un autre jour, 13h35 sur France Inter, et on passe maintenant au débat de la semaine.
Le grand face-à-face, Ali Badou. Sur France Inter.
Le grand face-à-face continue toujours en direct. C'était cette semaine à Davos, en Suisse, la réunion annuelle du Forum économique mondial. Et mercredi dernier, un discours du président de la République, Emmanuel Macron.
Ces changements technologiques, on fait tout pour les encourager chez nous. Mais si on ne fait pas attention et si on n'en pense pas le cadre, Schumpeter va très rapidement ressembler à Darwin. Et je dis ça pour les gouvernements, mais je le dis aussi pour le secteur privé. Personne ne pourra me suspecter de ne pas être business friendly, comme on dit. Mais je vous le dis très franchement ici, si je ne redonne pas un sens à cette mondialisation, si j'arrive pas à expliquer aux gens qu'elle est bonne pour eux et qu'elle sert à traiter les problèmes du quotidien et qu'ils y ont leur place, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ce seront les nationalistes, les extrêmes, ceux qui proposent de sortir de ce système qui gagneront. Et la question est de savoir si on sait refonder un vrai contrat mondial.
Notre invité est historien, économiste, essayiste. Il publie « Violence et passion, défendre la liberté à l'âge de l'histoire universelle » aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Nicolas Bavrez.
Bonjour.
Et bienvenue dans le grand face-à-face. Quel sens donner à la mondialisation ? Après le sommet de Davos, a-t-on vu un nouvel ordre ou un nouveau désordre mondial émerger ? On va en débattre avec vous. Mais d'abord, un mot pour essayer de comprendre ce que disait le président de la République, car il parlait une langue étonnante. Mais cette phrase, si nous ne faisons rien, Schumpeter va finir par ressembler à Darwin. Est-ce que vous pourriez nous faire une explication de texte très rapidement, qu'on sache dans quel monde nous vivons ?
Alors, d'abord, le président de la République a fait deux discours dans deux langues différentes.
L'un en anglais, l'autre en français, un troisième peut-être dans une langue qu'on ne connaît pas.
Deux discours, oui, c'est un double discours, je pense qu'on en parlera. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que finalement, le discours sur la France a été prononcé en anglais pour les investisseurs et le monde extérieur. Et le discours sur le monde et la mondialisation était prononcé en français pour l'opinion intérieure. Alors maintenant, l'opinion monde de Schumpeter et monde de Darwin.
Comment l'aider à comprendre à votre question, Schumpeter, qui va finir par ressembler à Darwin.
Schumpeter, c'est l'univers de la création destructrice ou de la destruction créatrice. Donc c'est l'idée que le capitalisme se régénère en permanence, qu'il détruit certaines technologies et certains emplois et qu'il en recrée d'autres. Donc c'est la question posée aujourd'hui par la révolution numérique. Et le monde de Darwin, c'est le monde de la sélection. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, avec la mondialisation et la révolution numérique, c'est d'ailleurs peut-être de savoir si on a les deux, c'est-à-dire d'un côté une nouvelle économie qui émerge, une révolution technologique, et en même temps une énorme machine à polariser les individus, les emplois, les entreprises et les nations.
Le libéral que vous êtes, a-t-il été surpris par cette nouvelle définition, ce regard porté par Emmanuel Macron sur la mondialisation? A-t-on vu à Davos quelque chose émerger, je le disais, comme un nouvel ordre mondial ou un nouveau désordre mondial qui serait encore confus et dont on n'arriverait pas bien à maîtriser les contours?
Alors, aujourd'hui, on est clairement dans une phase de désordre mondial, une phase de transition extrêmement risquée, avec toute une série d'impacts, donc des révolutions démographiques, économiques avec la mondialisation, technologiques, le retour des passions collectives, des passions nationalistes, des passions religieuses, et par ailleurs, une transition entre le leadership des États-Unis et le leadership de la Chine. Donc, on a beaucoup parlé d'Emmanuel Macron, mais et je crois qu'il faut quand même resituer le fond de Davos, c'était quand même l'intervention de Trump. Et l'intervention de Trump, elle nous a livré deux choses. D'abord, il continue partout à faire de la politique intérieure, et la politique intérieure, pour lui, sa légitimité, c'est l'économie. Donc, c'était ça qui l'intéressait, c'est pour ça qu'il est venu, et c'est pour ça qu'il s'est adressé d'abord aux investisseurs. La question ensuite internationale sur quelle est la vision du monde de Trump, eh ben on a eu deux réponses. Donc une fausse réponse, l'idée que America First n'est pas America Alone et qu'on passe du leadership au partnership, mais derrière on a eu les réactions de Monsieur Modi, l'Indien, du Brésil ou du Mexique. Et la réalité de Trump, c'est que il détruit l'accord de Paris, en tout cas il essaye, il est sorti du pacte transpacifique. Aujourd'hui, les négociations de l'ALENA sont extrêmement difficiles et il affaiblit tout le système multilatéral. Donc ça, c'est la réalité.
Et le système libéral ou multilatéral ? D'un mot, avant de laisser la parole à Natacha Polony.
Enfin, il était un peu les deux, puisque c'est un système qui a été imaginé par les États-Unis en 1945, et il y avait les deux objectifs. Il y avait un objectif de résistance à l'Union soviétique, un objectif de reconstruction, et effectivement aussi un objectif de porter des valeurs libérales du monde à l'époque. Et ça, il faut être clair, Trump, ses valeurs libérales, de même qu'on ne peut pas dire qu'il porte une grande attention à la Constitution des États-Unis, il a clairement dit que les valeurs des droits de l'homme, de la démocratie, pour lui, c'était les intérêts des États-Unis qui comptaient. Et dernière chose intéressante, c'est que la comparaison se fait aussi, il faut regarder les choses dans l'histoire. La grande intervention de l'an dernier à Davos, c'était Xi Jinping. Derrière, on a eu le 19e congrès du Parti communiste chinois. Et là, on a une stratégie globale avec le monopole du parti à l'intérieur, le fait que la croissance chinoise est maintenant orientée vers les entreprises chinoises, le contrôle de la mer de Chine et les routes de la soie, 900 milliards dans 70 pays, qui permettent de prendre le contrôle des infrastructures de la mondialisation. On aime, on n'aime pas, mais c'est une vraie stratégie. Côté des États-Unis, il n'y a plus de stratégie mondiale.
Natacha Polony, puis Raphaël Glitzman.
Il me semble que dans ce sommet de Davos, ce qui était frappant, c'est d'avoir entendu aussi bien Narendra Modi que Justin Trudeau, que Angela Merkel expliquer que le libre-échange était formidable et que le protectionnisme était le véritable danger, que c'était le mal. Et à côté de ça, on a eu deux discours qui étaient un peu différents de cette musique-là. C'était celui de Donald Trump et celui d'Emmanuel Macron, qui ont adopté, malgré toutes les différences de forme, une stratégie qui peut être considérée comme assez similaire, c'est-à-dire s'adresser à des investisseurs et leur dire « venez chez moi, c'est formidable, je mets en place les outils pour que vous puissiez venir ». Et la réforme fiscale de Donald Trump va totalement dans ce sens, tout en infléchissant et en disant, et ça on le retrouve dans les deux discours, celui de Trump et celui de Macron, « vous êtes les bienvenus si tout de même vous payez vos impôts ». Et avec cette idée que Donald Trump a mise en avant, mais qui est présente aussi chez Emmanuel Macron, que certes, le libre-échange, c'est très sympathique, mais malgré tout, le rôle d'un pays est de préserver ses intérêts et de préserver sa population. Et donc, il s'agit avant tout de réfléchir à la façon dont on organise une mondialisation qui ne soit pas un champ de foire et qui ne soit pas une sorte de lutte à mort. Et de ce point de vue-là, les deux vont dans le même sens, à ceci près que Donald Trump a les rênes pour faire ce qu'il veut, pour mettre en place dans les limites de ce que lui permet le Congrès, alors qu'Emmanuel Macron, finalement, est inséré dans l'Union européenne, ce qui fait que, même pour ce qui est de faire payer des impôts aux GAFA notamment, ce n'est pas lui qui décide.
Alors, Nicolas Babrez.
Je ne crois pas que les discours soient similaires, je crois même qu'ils sont assez différents, parce que d'une certaine manière, Emmanuel Macron s'est servi, parce que c'est vrai que du côté de Donald Trump, on a la reconnaissance du protectionnisme. On a d'ailleurs eu des déclarations variées, par exemple, sur la monnaie. Et clairement, les États-Unis assument la possibilité de conduire des guerres commerciales et monétaires. Et ça, il faut être clair, c'est totalement destructeur. C'est ce qu'on a vécu dans les années 30. Emmanuel Macron a été plus subtil. C'est-à-dire que lui a profite de l'effacement de Mme Merkel en Europe et du refus des États-Unis de continuer à assumer le leadership. Il ne propose pas un monde protectionniste, il propose un monde régulé. Et ce qu'il dit, c'est que on va continuer à faire du commerce, mais que on va réguler la fiscalité, la technologie, on va faire payer des impôts. Et ça, franchement, par ailleurs, c'est la vraie tradition libérale. La vraie tradition libérale n'a jamais été de même qu'à l'intérieur des nations, il y a un État pour réassurer la liberté. Ça n'est pas simplement les individus, c'est un État de droit. Et un État de droit, il est forcément réassuré par des États. Et au plan mondial, le libre-échange n'a jamais été une idéologie. Ça s'incarne dans des traités. Et ces traités sont défendus par des institutions. On a des cours qui règlent les différends. On a des règles. Et c'est vrai qu'ensuite, elles sont plus ou moins appliquées. Mais il n'y a pas de libre-échange sans règles et sans
régulation. On a dérégulé pendant 40 ans et là on va vers la régulation.
Comme d'habitude chez Emmanuel Macron, dans l'ordre du discours, je dois dire qu'il a prononcé des mots qui sont effectivement extrêmement puissants. Et encore une fois, qui ne sont pas...
Des mots de gauche ?
Non, mais qui ne sont pas protectionnistes, qui sont régulateurs. Et c'est pour ça que ces mots étaient différents de ceux de Trump. Il a prononcé des mots régulateurs et il a dit quelque chose qui est extrêmement juste. C'est-à-dire que si on continue comme ça, vous allez casser les sociétés, a-t-il dit aux dirigeants des plus grandes entreprises mondiales. Vous allez casser les sociétés et on va se retrouver avec des extrémistes au pouvoir. Et donc, dans le discours, parce qu'encore une fois, il faudra voir sur les faits, parce que les faits contredisent parfois les mots chez lui, mais dans le discours, il y a une alerte qui est, à mon avis, extrêmement puissante et qui est très différente de celle de Trump. Il y a une alerte sur le comportement de pirate. C'est-à-dire que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est non pas au libéralisme, c'est à de la piraterie pure et simple. C'est-à-dire des gens qui refusent la moindre loi commune. Et moi, je suis un lecteur des penseurs libéraux de Montesquieu, de Locke, et le libéralisme était conçu comme une limite. C'est-à-dire une limite à l'Église ou à l'État qui empiétait sur les sphères privées des individus, sur l'espace privé de l'économie. Et là, on est dans une situation de l'illimité, c'est-à-dire que vous avez des grands groupes qui ne respectent plus aucune règle, qui ne veulent plus payer d'impôts et qui cèdent, à ce moment-là, à une hubris qui est potentiellement extrêmement destructrice. Alors le grand problème, encore une fois, comme d'habitude, du discours d'Emmanuel Macron, c'est qu'ensuite, on ne voit pas vraiment comment il va mettre en place ces grands principes.
Nicolas Babrez.
Alors d'abord, une remarque, c'est que pour le coup, là où Trump et Emmanuel Macron se sont retrouvés, c'est sur la première partie du discours. Littéralement, l'un a dit « France is back » et l'autre a dit « America is back ». Et quand il s'est agi de s'adresser aux investisseurs, évidemment, les arguments étaient un peu différents, mais la démarche était exactement la même. Oui. Maintenant, regardons sur
c'est
le...
C'est la danse du ventre, ça c'est à la limite de bonne guerre.
Ça fait partie de j'allais
mais
dire...
Mais sur cet ordre ou désordre mondial.
Et alors, sur le désordre mondial, revenons sur le fond. Oui. Sur le fond, le thème de Davos était bon, puisque, en fait, on a trois machines à polariser aujourd'hui, la mondialisation... la révolution numérique, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la remontée de la violence et la remontée des passions nationales et religieuses. Ça nous donne le fanatisme religieux, le djihadisme d'un côté, la montée des démocratures de l'autre, et l'effondrement du système multilatéral et du leadership américain qui vaille que vaille essayer d'encadrer tout ça.
Cet ordre mondial, il est trop libéral pour vous qui êtes libéral ou pas assez libéral? Je ne comprends pas.
Mais je pense que c'est parce que vous avez des étiquettes du libéralisme qui correspondent pas. Il est certain, c'est ce que j'ai indiqué, que sur la mondialisation, par exemple, on n'a pas de libre-échange si on n'a pas un cadre qui permette de l'appliquer, et notamment la réciprocité. Est-ce qu'il y a une réciprocité vis-à-vis de la Chine aujourd'hui? La réponse est claire, c'est non. C'est la Chine est un pays qui n'est pas, le compte de capital de la Chine n'est pas ouvert, le yuan n'est pas convertible, et par ailleurs, il est clair que si vous voulez investir en Chine, que ce soit sur les marchés publics, sur le contrôle, le partenariat obligatoire avec des entreprises chinoises, vous avez un système qui est totalement différent. Et que de l'autre côté, les Chinois peuvent acheter l'aéroport de Toulouse, le port du Pirée, et ceci sans aucun contrôle. Donc, est-ce qu'il y a de réciprocité ? La réponse est non. Révolution numérique, personne ne sait exactement ce qu'elle va donner. Ce qu'on sait, c'est qu'elle va plus vite, qu'elle touche tous les secteurs d'activité, qu'elle touche toutes les catégories d'emploi et qu'elle va redistribuer massivement le jeu. Il est clair que si elle n'est pas accompagnée, notamment, et c'était dit y compris par les entreprises, par des politiques d'éducation, de formation, on va arriver à ce qu'on voit en Californie, c'est-à-dire San Francisco qui est en train de disparaître parce que la tech est en train de vider San Francisco de toute sa population traditionnelle. Et on aura ça à l'échelle de grandes métropoles, à l'échelle de pays et à l'échelle du monde.
Il y a un gros problème, Nicolas Bavrez.
Il faut travailler.
Deux choses. D'abord, dans votre vision du libre-échange, vous oubliez que la question, le problème n'est pas seulement l'absence de réciprocité, parce que par exemple, entre l'Union européenne et le Canada, à travers le CETA, il y a de la réciprocité, et il n'empêche que ça va ruiner totalement la filière viande française, parce que cette réciprocité n'est pas totale dans la mesure où, si on ne met pas des normes environnementales qui soient les mêmes, eh bien ceux qui respectent un minimum de normes environnementales et sociales se font laminer. C'est ça le libre-échange. Deuxième chose, quand vous nous dites on voit ressurgir la violence, on voit ressurgir les nationalismes, il me semble que la question qui n'est jamais posée là-dedans et qui devrait pourtant être centrale et qui n'est pas posée en particulier à Davos, c'est la question de la démocratie. C'est-à-dire, dans cet ordre mondial, où est la démocratie ? À quel moment est-ce qu'on écoute les aspirations des peuples ? Alors, c'est en ça que je voyais un lien entre le discours de Trump et celui d'Emmanuel Macron. Chacun à leur manière, et Dieu sait que je n'ai aucune, aucun amour spontané pour Donald Trump, mais je pense que dans leur discours, on retrouvait cette idée qu'ils sont là parce qu'un peuple les y a mis. Et c'est toute la lutte qui va s'amorcer aujourd'hui, c'est de savoir si les nations et à travers elles les peuples vont pouvoir échapper à cet ordre qui est mis en place par des multinationales qui s'asseyent totalement sur la démocratie et sur les peuples.
Nicolas Bavrez.
Trois réponses rapides. D'abord, il est bien vrai que la grande question du libre-échange pour le 21e siècle, c'est la question des normes. C'était ce qui était posé. C'est plus seulement la discussion sur les droits de douane ou sur les barrières. C'était
bien sûr,
d'ailleurs l'objectif initial du TTIP.
Et c'est
en tout cas la question clé si on veut faire du libre-échange au 21e siècle. C'est tout à fait juste. Deuxièmement, la question de la démocratie. Elle est clé parce que on voit que la grande question du XXe siècle, ça a été la démocratie contre le totalitarisme. La grande question du XXIe siècle, le capitalisme maintenant est là chez tout le monde, les technologies chez tout le monde. La grande question, ça va être les démocratures contre la démocratie.
Les démocraties, c'est-à-dire les démocratures.
Ce que je vous disais, c'était pas ça. C'était la démocratie contre les multinationales.
Je me permets de vous répondre, d'essayer de vous répondre.
Oui, mais vous mettez le problème sur les démocratures. Je le place face aux multinationales, face au pouvoir
Et c'est là où je crois qu'il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire que la grande question de la première décennie, ça a été le krach du capitalisme mondialisé. On en a encore les séquelles, mais maintenant la question qui se pose, c'est de savoir, nous avons aujourd'hui un krach potentiel de la démocratie face à deux choses, une menace extérieure, les démocratures avec des régimes à hommes forts, contrôle de l'économie par des oligarques, avec d'ailleurs des formes diverses, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la Turquie d'Erdogan est une démocrature islamique, de même on a aussi la Russie et la Chine dans cette catégorie. Et par ailleurs, ces régimes, notamment la Chine, retournent contre l'Occident, le capitalisme et les technologies.
Précisément, pourquoi la Chine, aujourd'hui, peut se faire le héros, alors que c'est une démocrature, évidemment, voire on peut enlever le démo de devant, le héros des valeurs du capitalisme et du libre-échange aujourd'hui contre le protectionnisme de Donald Trump, c'est précisément parce que ces dirigeants n'ont pas réellement de compte à rendre. Or, il y a une forme, c'est vrai, si on est un dirigeant démocratique, aujourd'hui, de nécessité à réaffirmer les droits du commun et du politique face à une logique individualiste qui a complètement briser le tissu social. Et c'est même Merkel, qui est pourtant pas, qu'on ne peut pas soupçonner d'être anti-libérale farouche, a dit « vous risquez de casser les sociétés ». Et donc là, il y a un vrai enjeu. Si aujourd'hui nous assistons au retour des passions nationalistes et des passions des hommes forts et à un modèle de démocratie illibérale sur le plan politique, cette fois-ci tel que théorisé par Orban à l'intérieur même de structures européennes, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. Et à Davos, il y avait quand même autour de dans la salle les gens qui étaient responsables aussi du fait que ce quelque chose se soit brisé.
Pourquoi est-ce que la Chine de Xi Jinping peut effectivement expliquer, comme l'an dernier, que maintenant la mondialisation, le libre-échange, le multilatéralisme, c'est elle. C'est à cause de la dépression collective de l'Occident et des démocraties. Et il est vrai qu'il y a ce double feu croisé, les menaces, djihadisme, démocrature et le cybermonde, et par ailleurs, le problème intérieur qui est le problème du populisme. Et ce problème du monde populisme, vous avez évoqué le fait des sociétés ou des pays cassés. Et c'est exactement ça. Si vous regardez aujourd'hui la carte électorale du Brexit, la carte électorale de l'élection présidentielle américaine, le premier tour de l'élection présidentielle française, vous avez exactement ces fractures territoriale, sociale.
Et à cela, s'ajoute la crise de
Natacha Polony n'a pas l'air d'accord.
Qu'il faut essayer de répondre.
La crise du politique qui est liée au fait que quand les multinationales refusent d'obtempérer aux lois des États, eh bien le politique entre en crise. Et donc les gens qui sont à Davos sont responsables de cette crise.
On peut même ajouter juste une chose, qui est que si la Chine peut prôner le libre-échange, c'est parce que la Chine contrôle tout cela et ne dépend pas des multinationales. Et donc elle peut se poser en champion de ce qu'elle veut, parce qu'elle ne dépend pas. Alibaba, par exemple, est contrôlée par l'État chinois. Alors que vous évacuez de façon extrêmement frappante le problème. Nous avons, par exemple, des GAFA qui ont une puissance telle que leur capitalisation boursière équivaut au PIB de la France et qui s'affranchissent des lois, c'est tout. Le problème,
alors,
c'est
le GAFA,
ce qui nous menace, ce n'est pas Viktor Orban,
est à l'abri,
c'est plutôt Apple et Microsoft.
Pourquoi est-ce que le GAFA est à l'abri des lois antitrust des États-Unis? Pourquoi? Pour une raison simple, c'est qu'il y a un lien intime entre le GAFA et les agences de sécurité américaines. Et parce que les données collectées par le GAFA sont déversées dans le système de sécurité américain. Normalement, quand on regarde la situation du GAFA aujourd'hui, c'est la Standard Oil de la fin du 19e siècle. Google doit être aujourd'hui séparé. Pourquoi est-ce que Google n'a aucun problème d'antitrust aux États-Unis? Parce que il y a un lien intime avec le système de sécurité américain.
Mais
le système
de sécurité,
c'est l'État américain.
La principale menace, ce ne sont pas les démocratures, ce sont les GAFA.
Alors, très franchement, les GAFA, on peut les réguler. Et si l'Europe ne les... Mais bien sûr que si.
Oui.
Si vous voulez, aujourd'hui, le problème des GAFA, quel est-il? Le problème des GAFA, c'est qu'ils n'ont pas accès au marché chinois, puisque de fait, la Chine a bloqué son marché. Donc les 550 millions de consommateurs européens, pour les GAFA, c'est un enjeu vital. Donc, ça n'est qu'à nous de les réguler.
Ça n'est pas impossible.
Et d'ailleurs, regardez Madame
Vestager. Toujours
regardez Madame Vestager.
Il faut le vouloir.
Regardez Madame Vestager.
Ouais.
Elle a quand même sanctionné une sanction de 14 milliards d'euros. C'est quand même de l'argent. Donc, on peut parfaitement le faire. De même que sur les données, soit on décide de continuer à laisser soit on fait un droit européen des données. Il y a des obligations de stockage sur le territoire européen. Il y a un droit à l'oubli. Il y a une capacité de garder le contrôle de ces données, mais ça, il n'est qu'aux Européens
on en revient toujours au même point, quelle que soit la question, parce que c'est central. C'est-à-dire que ça ne pourra fonctionner que si la politique se fait à l'échelle européenne. Alors, j'ai l'air d'être obsessionnel, mais toutes les questions nous ramènent à ça, que ce soit l'environnement, le rapport au GAFA, la politique internationale, ça ne pourra fonctionner qu'à l'échelle européenne.
Monde.
Oui, mais l'ordre du monde, s'il y a une chose qui est juste dans ce que dit Emmanuel Macron à Davos, c'est que l'ordre du monde, il passe par l'affirmation d'une Europe puissante.
Oui. Vous qui appelez à défendre la liberté, Nicolas Bavrez, c'est la liberté d'entreprendre, c'est la liberté de ces grandes multinationales de s'enrichir et de prospérer.
Mais le vrai enjeu, c'est la liberté politique aujourd'hui. Donc, on disait qu'est-ce qu'on peut faire? Les choses sont claires. Le monde est beaucoup plus dangereux qu'il y a quelques décennies. C'est vrai que l'Europe a perdu son grand allié, qui était les États-Unis. Donc,
on peut vous dire qu'après tout, la guerre froide s'est terminée, qu'il y a eu au XXe siècle des dangers bien plus grands que ceux qu'affronte le monde aujourd'hui.
Regardez le nombre de victimes du terrorisme, il a décuplé. Le terrorisme maintenant fonctionne comme un réseau social au cœur de nos sociétés. Regardez la pression justement des régimes qui récusent la liberté politique sur l'Europe, la Chine, la Russie, la Turquie. Regardez également le monde cybernétique avec tout ce qu'il offre comme capacité d'intervention. La Russie est quand même intervenue dans l'élection américaine, dans le Brexit, dans le référendum catalan.
Et donc, ça l'enjeu là aussi. Je pense pas que l'intervention de la Russie dans le référendum catalan soit déterminante.
Comme toute technologie, c'est un instrument, mais on peut l'utiliser pour le meilleur. On peut aussi l'utiliser comme un instrument d'oppression.
Face
à tout ça, il faut effectivement réagir. Mais là où je suis en partie d'accord avec vos deux débatteurs, c'est que je ne crois pas que tout doive basculer sur l'Europe. L'Europe, elle a un domaine de pertinence sur les risques globaux. Donc, si on parle de commerce, si on parle de cyber, ce qu'on a dit, et une partie de la sécurité, notamment le contrôle des frontières ou de monnaie, elle a ça. Par exemple, en revanche, quand Emmanuel Macron disait l'éducation ou la santé, ce sont des biens communs de l'humanité, il y a une dimension effectivement internationale pour prévenir, par exemple, les épidémies. Mais je crois que ce sont des politiques qui resteront, comme beaucoup d'autres, des politiques d'abord nationales. Donc, il faut bien travailler au plan des nations, au plan européen et effectivement au plan mondial. La seule chose intéressante et intelligente à faire, c'est d'essayer de conserver un peu de vie à ce multilatéralisme. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais que quand les gens parlent, ils ont quand même un peu moins de chances de se battre. Or, aujourd'hui, on est dans une course aux armements qui est quand même impressionnante et les risques de guerre ne sont pas nuls.
Il me semble que les risques que nous courons aujourd'hui sont avant tout des risques de révolte des peuples, puisque l'ensemble des systèmes qui aujourd'hui se prétendent des démocraties sont enserrés dans un système économique qui étouffe les aspirations de ces peuples.
Raphaël Luxman.
Je pense que les risques sont doubles. Il y a le risque des démocratures, du rejet de la démocratie, et il y a le risque de ce qui permet ce risque-là des démocratures, c'est-à-dire le risque d'un monde sans loi. Or, force doit rester à la loi, et ce qu'on a eu du mal à voir à Davos, malgré des mots qui ont été prononcés, c'est comment est-ce qu'on va faire pour que la loi soit réimposée à des acteurs économiques qui ne la respectent plus, et donc qui ne sont plus des acteurs libéraux, c'est des acteurs monopolistiques qui refusent la concurrence et qui refusent l'application des lois d'État souverain dans lesquelles ils vont collecter leurs données et utiliser
les infrastructures et tout le reste.
Réponse rapide, d'abord, la colère des peuples, c'est pas un risque, elle est là, il suffit de regarder Trump, on a le Brexit, on a l'Allemagne sans gouvernement, on a l'Espagne qui se fragmente, on a l'Italie devant une élection à haut risque et on a toute l'Europe centrale et orientale qui communie dans la démocratie illibérale. Donc la crise, elle est là. C'est pour ça qu'on est dans la situation la plus difficile depuis les années 30.
Mais la manière de répondre,
c'est de lutter contre les causes profondes du populisme, on est d'accord, mais sans renoncer à la liberté et à la raison.
Non.
Et par ailleurs, sur l'idée des lois, c'est vrai que par exemple sur le cyber ou sur le climat, ça n'a de sens que si on arrive à travailler au plan mondial. Et pour ça, on est bien obligé d'utiliser des instruments multilatéraux en forgeant de nouveaux.
Et par de exemple, remettre sur en cyber, cause un système qui
Darwin
est conçu sur l'exploitation de ressources qui sont limitées.
Est-ce que nous vivons dans le monde de Darwin ? D'un mot, oui ou non ?
Darwin peut gagner, mais n'a pas encore gagné.
Vous l'entendez, il est 14h sur France Inter. Le temps pour moi de vous remercier, Nicolas Bavrez. Violence et passion, défendre la liberté à l'âge de l'histoire universelle. C'est passionnant et c'est aux éditions L'Observatoire. Merci à Ophélie Vivier qui a préparé cette émission. Un mot aussi pour vous dire, KOC, analyse, opinion, critique. C'est un nouveau magazine qui vient de paraître en ligne et où il y a des publications de chercheurs, d'écrivains, d'intellectuels, d'artistes, de journalistes. Pour être tout à fait juste, on va citer aussi le magazine littéraire, Raphaël Luxman à la une ce mois-ci.
Les femmes en révolution.
Et Natacha, La République vue d'un pot de Nutella, c'est à lire dans le Figaro. Notre chronique publiée hier, le grand face-à-face se termine. À suivre, Zoé Varier, sa journée particulière, je vous le disais. Vous écoutez France Inter, il est 14h.